Bonjour, comment allez-vous? En période de confinement et de télétravail, nous perdons le sens des jours. Plus de cafards du dimanche soir, plus de ça va comme un lundi, plus de Shabbat de prière du vendredi, plus de fièvre du samedi soir, plus de mercredi sans école. Peut-être est-elle enfin arrivée cette fameuse semaine des 4 jeudis, expression qui date de l'époque où le mercredi chômé des écoliers était un jeudi. Vous me suivez?
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 9 ans et j'habite dans l'Aude. Je voudrais savoir pourquoi les films sortent tous les mercredis. Merci et à bientôt.
Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai 7 ans et demi et je suis en CE2 et je voudrais savoir pourquoi les films sortent toujours au cinéma le mercredi. Au revoir, à bientôt.
Thierry Lefebvre, vous êtes professeur avec des élèves un peu plus grands que Simon et Boris, puisque vous êtes à la faculté de Paris Diderot à Paris. Pourquoi les films sortent le mercredi, vous demande-t-il ?
On va faire le plus simple possible, on va dire, pour des raisons logistiques. Logistique, ça veut dire il faut gérer l'arrivée des bobines, effectivement. Et donc, il fallait organiser cette distribution. Il faut bien comprendre que pour le cinéma, il y a 3 acteurs essentiels de la chaîne cinématographique. C'est le producteur, celui qui va produire le film au sens propre.
Et qui a les sous.
Celui qui a des sous et qui va rémunérer le réalisateur, les acteurs, etc. Il y a le distributeur, c'est celui qui va justement amener le film jusque vers les écrans, et l'exploitant de salle de cinéma, qui est celui qui s'occupe d'une salle de cinéma à proprement parler, et qui a envie d'avoir des programmes. Donc il va faire appel au distributeur, l'exploitant de cinéma, et il va demander « moi j'ai besoin tel jour de tel film ». Alors pour des raisons logistique, je reprends le terme, eh bien, on a décidé de tout concentrer sur une journée. Et si possible, une journée qui vient avant le week-end. Donc, c'est le mercredi et pour des raisons qui sont à la fois simples et compliquées. Au départ, les films, au début de l'histoire du cinéma, les films étaient vendus. Donc, il n'y avait pas de sortie à proprement parler. L'exploitant de salle faisait ce qu'il voulait. Il le projetait quand il le voulait. Et puis, à un moment donné, il y a un grand producteur cinématographique qui s'appelait déjà Pathé à l'époque, on est en 1908, et qui a décidé de faire ça en location. Donc, on loue pendant une semaine le film, pendant une autre semaine éventuellement, une troisième si c'est un succès, etc., etc.
D'accord, ce qui fait, Thierry Lefebvre, qu'au début, celui qui avait la salle, l'exploitant de salle, il achetait le film, donc il le gardait.
Voilà, parfois il y avait des bobines qui étaient vendues d'occasion. Bref, Pathé a lancé cette mode et l'a imposé, c'était la plus grosse société au monde à l'époque, et a décidé que ça serait le vendredi, le jour de la logistique, le moment où on amenait les pellicules dans les salles de cinéma. C'est toujours cette idée de week-end. Alors, évidemment, on travaillait le samedi à l'époque, mais le dimanche était quand même chômé. Et puis, à partir des années 30, je crois 36, 37, on a décidé de décaler ça dans le temps et de le rapprocher du moment où les enfants n'allaient pas en cours.
Qui était le jeudi à l'époque.
Qui était le jeudi, qui sera le jeudi véritablement après la Seconde Guerre mondiale.
Ah bon.
Ça sera effectivement le jeudi, le jour où les films sortiront en salle, parce que ça correspondait au temps libre des enfants, qui constituaient déjà une grande partie du public. Et puis, en 72, il y a eu une réforme, et on a décidé que ça ne serait plus le jeudi, mais que ça serait le mercredi, le jour chômé des enfants. Donc, on a décidé de déplacer ce jour de la logistique, donc du transport des bobines, au mercredi.
Et maintenant, ça va rester le mercredi ?
Oh, il est probable, oui, parce que les habitudes sont prises. Alors maintenant, on pourrait changer, on pourrait faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, ce sont des fichiers qui sont stockés dans des énormes disques durs, des serveurs qui sont au sein des salles de cinéma.
Il n'y a plus de bobines.
Il n'y a plus de bobines. Mais en revanche, on ne peut pas utiliser un film sans l'accord du distributeur et du producteur. Donc il y a un petit logiciel qui n'arrive que le jour donné, et qui va permettre de débloquer en quelque sorte le fichier, pour éviter la copie illégale, évidemment. Le film ne peut être utilisé que pendant des créneaux horaires qui correspondent donc à l'usage de ce petit logiciel.
Les petits bateaux sur France Inter.
Benoît Grisson est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences.
Oui, bonjour, Noëlla de Moulins-sur-Allier. Voilà, j'avais une question à vous poser. Est-ce que les calmars géants existent réellement ? Si c'est le cas, est-ce qu'ils sont suffisamment gros pour pouvoir faire couler un bateau ?
Alors, je vais vous parler d'un livre, Noëlla, qui, justement, s'appelle « Du Yeti au calmar géant », édité chez Delachaux et Niesley. Il est écrit par Benoît Grison, que j'ai en face de moi. Pouvez-vous répondre à Noëlla ?
Le calmar géant existe vraiment, mais les scientifiques en ont longtemps douté. Il fallut attendre 1853, après un siècle de débats échevelés. En 1853, il y en a un qui s'est échoué au Danemark, sur une plage.
La photo est dans votre livre.
Absolument. Et à ce moment-là, le monde savant, comme on dit, a accepté l'existence du calmar géant. Et maintenant, on sait des tas de choses extraordinaires sur lui. Il vit dans les grandes profondeurs, pas dans les abysses, mais dans les grandes profondeurs, à au moins 900 mètres. Il se retrouve à combattre les cachalots qui veulent les dévorer, qui sont les seuls prédateurs des calmars géants. Et puis, c'est des êtres qui peuvent atteindre 17 mètres de long, de la pointe du manteau jusqu'au plus grand tentacule. Leurs yeux sont énormes et les spécimens de 17 mètres ont des yeux qui font une vingtaine de centimètres de diamètre. Donc, c'est extraordinaire. Et pourquoi ils ont développé ces yeux énormes? Surtout pour surveiller dans la quasi-obscurité leur prédateur, le cachalot, qu'ils redoutent.
Dites-moi, Benoît Grison, ça fait un œil comme un ballon de foot ?
C'est ça. Mais évidemment, pour les très grands spécimens, plus de 10 mètres. Mais quand même, c'est tout à fait disproportionné. Est-ce qu'ils peuvent couler des bateaux ? Non. Ils sont totalement inoffensifs. J'ose pas dire qu'ils sont charmants. Mais en plus, quand on les observe à la surface de l'eau, c'est qu'ils sont moribonds.
Ah.
C'est qu'ils ont pris un coup de chaud parce que c'est des animaux qui n'aiment que l'eau froide. Et avec le réchauffement printanier, certains qui ne migrent pas assez vite se retrouvent mal physiologiquement dans une eau plus chaude et ils commencent à être moribonds. Et on les voit à la surface à ce moment-là. Ce qui a créé le mythe chez les anciens marins, cet animal avec ses très grands tentacules, est-ce qu'il ne pourrait pas nous couler ? Non, parce qu'ils ne peuvent pas sauter au-dessus de l'eau comme certains petits calmars très rapides. Donc c'est impossible. Ils sont inoffensifs. Ils existent. Ils peuvent faire 17 mètres. Ils ont un œil énorme, mais ils sont inoffensifs.
Beaucoup de marins avaient raconté qu'ils avaient vu des calamars géants, mais on ne les croyait pas. On les accusait d'avoir un petit peu abusé du rhum, comme le capitaine Haddock. Et en fait, le vrai calamar géant vu, reconnu, c'était en 1857. Gérard Ligébélaire est physicien et photographe. Il est professeur à l'université de Reims et il dirige une équipe de chercheurs qui travaille sur les bulles. Pas les bulles du capitaine Haddock, les bulles du champagne.
Je m'appelle Hélène, j'ai 8 ans. Et je voudrais savoir comment l'eau devient gazeuse. Merci, au revoir.
Et c'est vrai qu'on se demande, Hélène. Gérard Ligébélaire.
Bonjour Hélène. Alors pour que l'eau devienne gazeuse, il faut simplement forcer du gaz carbonique à s'incorporer dans l'eau. Alors ça c'est tout simple. Quand tu ouvres de l'eau au robinet, elle n'est pas gazeuse, elle ne fait pas de bulles, tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de gaz dissous. Pour obtenir ce qu'on appelle une eau effervescente, il faut forcer du gaz dissous à rentrer dans l'eau. Alors pour ça, on peut le faire de façon extrêmement simple. Il suffit de faire buller pendant quelques dizaines de secondes du dioxyde de carbone sous pression dans de l'eau.
Mais on le trouve où, le dioxyde de carbone ?
Alors c'est simplement des espèces de petites cartouches. Alors il y a des dispositifs maintenant qu'on peut acheter dans le commerce. On greffe une cartouche de dioxyde de carbone sous pression qui va forcer à faire des bulles pendant quelques dizaines de secondes dans l'eau. Et le simple fait de faire des bulles de dioxyde de carbone sous pression dans l'eau va permettre de forcer ces molécules à se dissoudre dans l'eau.
Mais le dioxyde de carbone, c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose qu'on fabrique ?
Alors, c'est quelque chose qui existe naturellement dans l'air. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on le rassemble sous forme de bonbonne pour pouvoir l'utiliser.
Il ne pourrait pas exister des bulles d'autre chose ?
Alors, si. Alors, la particularité chimique du dioxyde de carbone, c'est que c'est un gaz qui est très soluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'on peut en mettre beaucoup. L'eau accepte de recevoir beaucoup de dioxyde
D'accord.
de carbone.
Elle ne sature pas.
Voilà. Elle va saturer, mais il va falloir. Elle va en supporter beaucoup. Alors, on peut, et ça existe, on peut par exemple imaginer des eaux gazéifié à l'oxygène,
oui.
Ça existe, ça marche. Par contre, on va pouvoir en mettre très peu parce que l'oxygène est très peu soluble dans l'eau. Donc en fait, les eaux chargées en oxygène dissous, ce sont des eaux qui vont être très faiblement pétillantes, tout simplement parce que l'oxygène est très faiblement soluble dans l'eau.
Quand il y a des eaux qui sont plus ou moins pétillantes, ça veut dire qu'il y a plus ou moins de dioxyde de carbone.
Exactement, exactement.
C'est ça, c'est tout.
Exactement. Il y a des eaux effectivement qui sont connues pour être très piquantes parce qu'elles sont très chargées en dioxyde de carbone.
Ouais.
Des eaux qui sont légèrement moins pétillantes parce qu'elles contiennent moins de dioxyde de carbone.
Et elles ont des grosses bulles et des petites bulles ?
Exactement. Les eaux très chargées en dioxyde de carbone vont être des eaux qui vont être propices aux grosses bulles et les eaux faiblement chargées en dioxyde de carbone vont plutôt faire des petites bulles.
C'était Les Petits Bateaux. Nous reviendrons demain, juste après le journal de midi.